CPORadio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Clèche, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPORadio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et bien sûr, nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPORadio-du-bas. TV à mes côtés pour co-animer cette émission, Ludovic Béribos, associé d'EPSA Operations and Procurement. Bonjour Ludovic.
Bonsoir.
Et Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Director de CRM.
Bonsoir Patrice.
Bonjour à tous les deux. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Espagne, directeur des achats groupe de SANEF. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Très belle formation, centrale, HEC. J'aimerais quand même que vous nous parliez plus précisément de ce master de gestion de grands projets. C'est un diplôme qui vous convenait parfaitement.
C'était un diplôme qui convenait très bien au moment où je sortais de l'école d'ingé, où comme beaucoup d'ingénieurs, je parlais plein de choses techniques, puis j'étais bon à rien au moment où on sort de l'école. Donc, non, trêve de plaisanterie. J'avais une forte appétence sur les sciences, sur la technique, mais en fait, j'avais pas envie d'en faire ma carrière. Je voulais en faire le fond de commerce de l'activité, mais pas du tout le quotidien dans un bureau d'études à faire que ça. Donc, il me fallait bien un métier plus de gestion, de management. Ne sachant pas aussi ce que je voulais faire précisément dans ces techniques-là, même si j'avais une première orientation, on va en parler après, c'était effectivement ce master de gestion en gros projet qui balayait un peu tous les métiers et qui me correspondait, oui.
Et avec votre formation, évidemment, on ne rentre pas n'importe où. Premier job chez PSA, vous commencez par la qualité, puis vous voilà aux achats, ô combien stratégiques pour le secteur automobile. C'est déjà largement mature quand vous êtes rentré chez PSA.
Oui, alors PSA, c'était un peu le rêve de gosse aussi, hein, comme peut-être beaucoup de gamins en France, la voiture et la voiture de papa, voilà, qui était le Peugeot. Donc il y avait ce rêve de gosse. Il y avait aussi une volonté de rejoindre une industrie qui était quand même assez assez forte, assez présente dans l'activité française. Voilà, la rentrée en tant que qualité, parce que c'était un métier de qualité projet en fait, qui correspondait à la suite logique du master que je faisais, qui occupait une fonction assez large et assez transverse sur les différents métiers de l'automobile avec une vision assez large. On continue toujours un peu pareil, je savais pas trop ce que je voulais faire, donc je voulais un peu tout voir. Voilà, donc c'était un formidable tremplin pour justement se perfectionner. Et après les achats, quand vous travaillez pour un constructeur automobile, c'est allez, 70% du produit qui est acheté, c'est le cœur métier de l'entreprise. Vous avez deux métiers, c'est l'achat et l'assemblage.
L'assemblage, oui.
Donc c'était assez une évidence, c'était le cœur du réacteur. Et donc effectivement, les achats, la relation fournisseur, et c'était tout à fait logique en tout cas dans ma rentrée chez PSA.
Racontez-nous votre aventure américaine. Départ pour les États-Unis, c'était chez Itron, c'est ça?
Itron. Alors Itron, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'IoT, enfin l'Internet des objets autour de la données énergétiques, consommation énergétique et ressources en eau. En gros, les compteurs jusqu'à toutes les interfaces logicielles pour contrôler la consommation énergétique. C'était une mission où je devais mettre en place un service, le département des achats projets. Donc c'est un nouveau métier avec une direction d'entreprise qui était aux États-Unis. Alors j'étais basé en France certes, mais en fait plus de 50% de mon temps était aux États-Unis. Donc j'étais assez excité effectivement à découvrir les États-Unis. Voilà, c'était aussi un bon levier pour pratiquer l'anglais et se perfectionner là-dedans. Par contre, alors petite anecdote, c'est vrai que je m'attendais aux États-Unis qu'on connaît, Boston, New York, Californie, et là j'ai plutôt découvert l'intérieur même les États-Unis, hein, le vrai et le dur. Et c'est pas la même. Voilà, c'était extrêmement intéressant, enrichissant, mais bon voilà, il y a des choses qui, peut-être nous Français, nous sont très très loin de nos standards et notre culture. Donc c'est bon, ça a été aussi une très bonne expérience, très riche, d'apporter ce nouveau métier dans cette entreprise. Mais j'ai pas souhaité continuer plus de 2 ans chez Itron.
Retour en France et retour dans l'univers automobile.
Alors retour dans l'univers automobile, effectivement. Alors non pas chez le constructeur, maintenant chez l'équipementier. Alors indirectement, c'était en fait de mettre en place une structure achat au sein de Parrot Automobile. Donc j'ai bien que Parrot est extrêmement connu récemment pour les drones notamment. Là c'était bien la branche automobile qui développait des systèmes, tous les systèmes de médias, de navigation pour les voitures, et qui était en train d'être acheté, cette branche-là, par Faurecia, grand équipementier automobile. Voilà. Et donc, fallait mettre le métier des achats au standard automobile pour justement faire effectuer la passerelle avec Faurecia. Et oui, retour dans l'automobile, mais du côté équipementier cette fois-ci.
Et à partir de mars 2019, l'automobile est pas très très loin. Aventure professionnelle chez Sanef en tant que directeur des achats du groupe. Justement, quelles sont les missions du groupe Sanef aujourd'hui ?
Alors, les missions du groupe Sanef, c'est comme vous le savez, Sanef, c'est un des trois grands exploitants d'autoroutes en France. C'est plus de 2700 kilomètres de réseau, à peu près sur la Normandie, Hauts-de-France et Grand Est. Les métiers, vous le voyez tous, hein, c'est ce qu'on appelle les hommes en jaune, hein, que vous voyez au quotidien quand vous allez sur nos tracés, qui sont là pour assurer la fiabilité, la sécurité des clients et la fluidité du trafic. Mais alors, c'est surtout derrière, avant tout, des métiers de construction en génie civil. Bon, il a fallu à un moment donné les construire, ces autoroutes. C'est plus le cas aujourd'hui, mais il y a encore des grands projets du type élargissement, grand réseau d'assainissement pour la protection en eau, contournement de grandes métropoles. Vous avez aussi tout un métier autour de l'exploitation quotidienne et l'entretien. Alors là, vous avez des métiers autour de l'IT, du logiciel de voie de péage, logiciel de collecte de péage, d'entretien des infrastructures électriques et électroniques des péages aussi. Et puis entretien, bien évidemment, de la chaussée, des ouvrages d'art, avec des inspections, de la rénovation, du rabotage, enfin tous les métiers autour du génie civil, de l'entretien. Sanef, c'est aussi énormément d'innovation. On continue à travailler pour moderniser nos infrastructures. Et puis beaucoup d'ambition autour travail autour de la dynamique des territoires qu'on traverse. On a une grosse ambition de promouvoir les régions qui sont peut-être un peu plus délaissées, qui sont pas les grandes métropoles, les régions qu'on traverse. C'est aussi pour ça qu'on a des autoroutes, hein, c'est pour rapprocher nos territoires régionaux. Et donc on fait beaucoup de mécénat social et culturel autour de ces régions, de la réinsertion professionnelle, etc. Donc beaucoup de valeurs d'engagement et de responsabilité de Sanef, que ça soit pour les clients, pour vous tous, un Français sur deux par an sur notre réseau, pour nos propres collaborateurs, et puis de toutes les tierces parties avec qui on travaille, que ça soit les élus, les associations et les riverains que l'on traverse.
Ludovic Béribos a quelques questions pour vous.
Oui, bonsoir. Bon, alors après avoir travaillé plusieurs années chez les constructeurs automobiles, vous avez pris l'autoroute de la Sanef, mais toujours par la voie des achats. Bien évidemment, vous l'avez dit, à juste titre, les équipementiers et l'automobile est un secteur assez mature d'un point de vue achat. J'aimerais savoir quelle différence vous avez pu observer en rejoignant la direction des achats de la Sanef.
Une grande différence, pour la simple et bonne raison que j'ai mis en place la direction des achats chez Sanef. Elle n'existait pas quand je suis arrivé. Il y avait un service achat qui était au sein de la direction de la finance et qui était là essentiellement pour des activités administratives achats. Là où moi j'ai été, je prends le mot souvent de biberonné aux achats PSA, où on est effectivement sur une industrie qui était, quand j'ai commencé à travailler, c'était début des années 2000, une industrie qui était extrêmement challengée déjà sur les coûts, avec des risques associés à la supply chain qui étaient assez majeurs et déjà des impacts de mondialisation qui étaient très forts, avec des pièces qui venaient de partout dans le monde. Évidemment, le métier de l'acheteur était à très forte valeur ajoutée, travaillant en étroite collaboration avec les fournisseurs. Et c'est tout ce modèle-là que je suis en train de répéter et de mettre en place chez Sanef. C'est de prouver justement que, quelle que soit l'industrie, la valeur et ce que vous transportez, fabriquez ou service dont vous faites la promotion, les achats sont là pour justement apporter de la valeur, de l'innovation, créer de la dynamique sur votre métier. Et pas que là pour faire de l'administration des contrats, par exemple.
C'est très clair. D'un point de vue, vous parliez tout à l'heure du poids des achats chez PSA. On peut se donner une idée peut-être de ce que représentent les achats à la Sanef ?
Oui, tout à fait. Alors c'est assez particulier parce que Sanef, c'est un chiffre d'affaires. Alors certes, cette année un peu chamboulé avec la crise sanitaire, bien évidemment. Néanmoins, si on prend les résultats de 2019, on est à peu près 1,7 milliard d'euros. Il y a la moitié qui repart dans les caisses de l'État tout de suite. Il y a la moitié qui repart en taxes et impôts. Voilà. Alors faut l'avoir aussi en tête, hein, quand vous passez la barrière de péage. Il y a 50% qui repart déjà dans les impôts et donc dans la construction de notre pays. Donc, mis à part ça, vous sortez ces 50%. Moi, j'ai un portefeuille achat à peu près de 400 millions d'euros. Donc vous voyez, 1,7 milliard, vous le divisez par deux, et là vous pouvez véritablement comparer les 400 millions par rapport au 0,08, 0,085. Mmh. Voilà, donc on est sur une part de 50% sur l'activité effectivement de l'entreprise, quoi.
Alors, vous avez la chance de faire partie d'un groupe espagnol Abertis. Du point de vue des achats, donc il y a une double nationalité, une dualité qui peut s'affronter. Donc, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des contraintes, hein, à fonctionner dans un environnement international. Quels sont les principaux chantiers de transversalité que vous arrivez à mettre en place avec l'Espagne?
Alors il y a beaucoup d'opportunités aussi par le fait qu'Abertis et donc Sanef est un pur payeur de l'autoroute déjà par rapport à nos confrères autoroutiers français que sont les autoroutes de Vinci ou les autoroutes d'Eiffage qui sont adossées à un groupe de BTP et donc qui sont indirectement liés quand même à une activité interne. Nous on n'a pas de ça, donc déjà toutes nos activités, et c'est bien pour ça que on a une part d'achat qui est extrêmement importante, on a la possibilité de s'exprimer complètement à l'extérieur, voilà, et l'opportunité de travailler avec Abertis, c'est que c'est le premier autoroutier au monde. C'est une holding financière parce que le modèle de l'autoroute veut aussi qu'il faut être extrêmement fort en finance parce que c'est un modèle capitalistique long de par la perception du péage, et donc il faut être très fort sur la partie finance. Donc c'est une holding financière mais qui regroupe plusieurs filiales qui sont autoroutières, et donc ça en fait le plus gros autoroutier au monde, donc ça propose un certain nombre d'opportunités. Les contraintes, c'est que c'est ce qu'on vient de dire, hein, c'est que c'est une holding financière. Donc pour le coup, dans l'opérationnel, des fois ils sont un peu loin, et voilà, faut être un peu plus précis dans les vocabulaires et dans les techniques politiques pour pouvoir lancer les projets. Et le prochain projet que l'on lance justement, qui est en lien avec mon projet de mise en place des achats, de transformation achat, c'est un projet de modernisation et de digitalisation, bien modernisation des processus autour de l'ajout d'outils qui vont permettre de fluidifier et automatiser tout le traitement administratif achat.
C'est très clair. Une dernière question, si vous me permettez. Vous avez parlé d'innovation. C'est vrai, quand on parle d'exploitation d'autoroute, on a l'impression que le domaine est assez, la matière un peu uniforme. J'aimerais savoir quelles sont les innovations dont vous pourriez nous parler et de quelle façon les achats contribuent à capter cette innovation.
Bon, je rigole parce que c'était la question que je crois que j'avais posée en entretien quand j'avais été contacté par Sanef.
Vous recrutez aujourd'hui.
Ça m'était pas si évident que ça, donc la question est très pertinente. En fait, l'un des projets phares qui va arriver pour l'entreprise en stade de finalisation avec l'État et de l'accord avec l'État, c'est le passage en péage en flux libre. Sans barrière, donc, qui est un projet énorme pour l'entreprise, parce que au-delà du fait qu'il va falloir installer tout un tas de systèmes, alors qu'on maîtrise, hein, d'autres pays le maîtrisent, hein, les États-Unis, vous trouvez ça partout, Portugal, vous trouvez ça partout. Donc techniquement, c'est un produit qui est abouti. Néanmoins, pour une entreprise comme Sanef, vous êtes en train de lui expliquer que là où son business model était de percevoir un péage avec une barrière qui arrête le client et qui permet de rentrer collecter l'argent immédiatement, vous allez lui expliquer que là maintenant le client va passer et paiera après. Donc c'est un énorme projet d'entreprise. Par contre, vu du client, c'est une avancée considérable dans la modernité de l'autoroute. Ça va permettre d'économiser tout un tas de millions de litres de gazole quand on s'arrête au péage et tous les bouchons que ça crée. C'est un merveilleux projet à tout point de vue. Et par contre, pour l'entreprise, c'est aussi un véritable changement et transformation du groupe.
À quel horizon ?
À quel horizon le projet doit démarrer l'année prochaine? Alors bien évidemment, ce n'est pas possible sur tous les tracés aujourd'hui, pour la simple bonne raison qu'il faut il y a un travail d'homogénéisation et de contrôle de toutes les plaques d'immatriculation qui est extrêmement compliqué sur l'Union européenne, en tout cas sur le territoire qu'est la France. Donc vous imaginez qu'une autoroute comme l'A1 qui est extrêmement traversée par des étrangers, ce n'est pas possible aujourd'hui. Par contre, c'est quelque chose que l'on va pouvoir tester sur la 14 et la 13, qui est un axe principalement traversé par des plaques françaises.
D'autres questions avec Pascal Leroy.
Merci. Alors, quand on a préparé cette interview, vous avez évoqué une mutation dans le métier des achats, avec une plus importante prise en compte du risque. Alors, je trouve ça cette approche intéressante. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette appréciation, et puis nous dire comment est-ce que vous faites pour pallier ce risque dans vos achats, et est-ce qu'un bon fournisseur ou certains bons fournisseurs peuvent vous permettre de répondre également à vos propres risques?
Alors, la notion de risque dans les achats, est évidemment, quand vous êtes en plein dans un projet de transformation achat et que vous avez travaillé dans l'industrie automobile, et je l'évoquais tout à l'heure, avec beaucoup de risques associés à la supply chain, au monde de l'économique, évidemment, vous apportez cet ADN-là dans votre métier. Donc, dès le démarrage de la mise en place de mon équipe d'acheteurs, on a parlé risque, on a parlé cartographie du risque. On est en plus une entreprise qui est extrêmement, une ADN très forte sur les aspects de responsabilité, sécurité, mais aussi responsabilité dans la lutte anticorruption, la lutte contre la fraude. Toute cette partie cartographie des risques, il faut la déployer et c'est via les achats que, bien évidemment, on trouve l'un des moteurs. Par rapport à nos fournisseurs, oui, aussi. Je crois aussi dans la responsabilité qu'on a, dans les fondamentaux que moi j'ai exprimés dans ma politique d'achat responsable. Une fois de plus, ce que j'ai appris dans la bonne école automobile, c'est qu'on peut pas travailler tout seul. On est obligé de travailler avec ses fournisseurs. On en a à peu près une dizaine de fournisseurs, comme partout, de direction d'achat qui font 80% de mon portefeuille achat, avec qui on va travailler très étroitement pour travailler ce risque-là, pour travailler tous les enjeux RSE que l'on a aussi. Donc c'est évident qu'il faut le faire avec les partenaires, d'autant plus que c'est eux les experts, notamment du génie civil, pour pas les nommer.
Alors, très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs en termes de RSE, puisqu'on en parlait ? Et au-delà des nécessaires certifications, normes, etc., qui sont attendues généralement dans les appels d'offres, entre autres, qu'est-ce que vous attendez comme terme de démarche en termes de ces fournisseurs ?
Alors, on ambitionne d'aller travailler notamment la réduction de notre empreinte carbone, notre empreinte sur l'environnement, par exemple sur la capacité à maximiser le recyclage des enrobés. Donc tous ces cailloux que l'on met dans nos belles routes, sur nos chaussées, dans notre enrobé, être capable de le recycler au maximum. Alors il y a toute une équation environnementale à faire pour vous dire à la fin que ce qu'il faut viser, c'est le 70% de recyclage de cailloux. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. On est à l'état de planche d'essai aujourd'hui, de confirmation que ça va être bien durable et sans risque, par exemple le risque d'orniérage ou le risque de sécurité pour les clients. Mais voilà, c'est des enjeux qu'on partage avec les fournisseurs de l'écran majeur de TP. Et on travaille aussi sur, par exemple, donc vous savez, la formule de l'enrobé sont des cailloux avec un liant issu de l'industrie pétrolière. On peut travailler aussi sur des liants végétaux. Donc c'est aussi des solutions que l'on apporte, que l'on travaille. Et évidemment, ça, c'est pas avec les laboratoires Sanef qu'on va le faire, c'est avec les laboratoires d'Eiffage, de Vinci et de Bouygues.
Parfait. Alors dernière question, qui est peut-être un petit peu, enfin la réponse n'est pas forcément évidente, mais comment est-ce que vous avez un métier qui est lié au transport, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour vous, pour votre groupe, dans un monde où peut-être que les transports seront un petit peu moins importants, où on va être amené à un petit peu moins se transporter au moins dans la prochaine année et peut-être même un petit peu après?
Ce qui va se passer par rapport à la crise sanitaire, je pense que effectivement personne peut exactement dire au jour le jour ce qui va se passer. Et je pense qu'il y a un an, si on avait été interviewé, on aurait pas eu cette question-là, enfin en tout cas différemment. Néanmoins, le transport, nous on propose, on est l'avantage que l'on a déjà de notre réseau, c'est qu'on est on a la particularité d'avoir les principaux accès à la capitale. Donc naturellement, dans le discours et dans le débat avec l'État, avec le concédant, on a une capacité à veut dire avoir un vrai crédit sur les propositions de solutions innovantes de mobilité plus durable, plateforme multimodale, etc. Donc là il y a un vrai enjeu à prendre et ça on le propose déjà et naturellement le transport restera avec peut-être effectivement des beaucoup plus de liens en différentes modalités et c'est ça qu'on propose justement à l'approche de nos agglomérations. Alors on sera pas le dernier kilomètre. Mais par contre, on peut faciliter tout un tas de d'approches des grandes villes. Et on a quand même tout de même un peu de mobilité quotidienne, domicile-travail aussi. Donc on a un enjeu aussi là-dessus.
Vous me disiez avoir pour ambition de rendre tout le processus achat moderne et efficient. Quels sont les leviers et où est-ce que vous en êtes depuis un an que vous êtes chez Sanef?
Alors, vous l'avez compris, j'ai mis deux axes dans l'organisation de ma direction des achats. Il y a un métier de l'acheteur même qui apporte la valeur ajoutée, qui porte les valeurs d'innovation, de RSE, de travail avec tous ces fournisseurs. Alors là, ces gens-là, il a fallu leur créer du temps, en fait. Pour créer du temps à ces gens-là, il faut trouver les modes opératoires qui vous expliquent qu'il faut réussir à les concentrer sur les endroits où il y a la valeur ajoutée. Donc là, on vient de mettre en place tout un process qui permet justement de dégager du temps pour ces acheteurs pour dégager justement de la valeur ajoutée et du travail avec les fournisseurs et non pas se concentrer sur des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Je veux dire aller accompagner un service juridique qui a besoin d'acheter un service d'avocat. Enfin, franchement, j'ai pas aucune valeur ajoutée à leur dire choisis un tel ou un tel. Donc plutôt que d'aller essayer de couvrir tout le spend avec des acheteurs qui sont qualifiés experts, on trouve un dispositif qui permet justement d'aller travailler sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Voilà, on a fait le choix aussi d'avoir une petite direction des achats en taille. Ça, c'est un choix d'entreprise aussi pour X ou Y raison. Voilà, il fallait absolument créer ce temps-là. À l'inverse, sur le métier de l'administration des achats, on a rajouté quelques outils effectivement dans l'année pour amener un peu de fluidité, un peu de visibilité dans ce monde-là. Néanmoins, aujourd'hui, on est une espèce de patchwork. C'est là où on en est au bout d'un an de transformation. On en a un peu un système de patchwork avec différents outils. Là, le but du jeu, c'est de mettre ces passerelles entre ces outils pour que des débuts à la chaîne, à la fin de la chaîne de valeur, on trouve une unité et une fluidité.
Et pour finir sur une petite touche bordelaise, puisque vous y êtes né, on reste sur les Margaux ou est-ce qu'on a le droit de s'évader de temps en temps?
Non, je suis tout à fait ouvert. Je suis prêt à aller à Saint-Émilion, hein, par exemple. Hein, y a pas de souci. Hein.
Un grand voyage.
Un grand voyage. Non, trêve de plaisanterie. Oui, naturellement. Alors, je sais pas si c'était quand j'ai appris à déguster le vin il y a quelques années déjà, ou si c'est parce que j'étais dans cette région qui était assez forte sur le vin. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'avait pas cette ouverture vers les autres régions. Donc j'avoue franchement gamin, autour de 18 ans bien sûr, hein,
à l'âge légal, ouais.
À l'âge légal bien entendu, j'ai connu que le Bordeaux. Après non, je me suis ouvert. Je trouve qu'on a une chance inouïe en France, hein, d'avoir des régions viticoles qui sont extrêmement riches. Voilà, moi je suis fan des Languedoc, Roussillon, je suis fan des Coteaux de Provence, donc je m'ouvre bien entendu un peu plus loin que ma Gironde natale.
En tout cas, merci beaucoup Jean-Marc, merci également à vous Ludovic et Pascal. Fin de ce numéro de cporadio.tv, vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de cporadio.tv, une production b2b-radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.